Chapitre 30. Tu rentres, Tom. Tu ne discutes pas et tu rentres. Le garçon s'éloigne en boitillant vers la cour de la ferme. Je me demande par qui il est le plus effrayé, par la violence de cet homme ou par moi. Je suis encore étendu sur le trottoir. Le barbu tatoué approche ses bottes de motard à quelques centimètres de mon visage. Et vous, vous me suivez? On va s'expliquer. Au calme. Aucun risque qu'il m'aide à me relever. Il n'a pas un regard pour mes genoux rouges, mes mains griffées couvertes de poussière noire, mais il reste à côté de moi, méfiant comme un vigile qui a coincé un client en flagrant délit, prêt à m'empoigner, par les cheveux s'il le faut, au cas où j'aurai l'envie de m'enfuir. Je prends le temps de me redresser, le temps aussi de l'observer. Une boule de muscles, des bras de bûcheron et des cuisses d'haltérophile. Un crâne presque rasé en un fin duvet. Il me pousse sans ménagement jusqu'à la souille. Tom est déjà caché à l'intérieur de la ferme. J'aperçois Amandine à la fenêtre, immobile et floue entre les rideaux couleur paille. Encore quelques coups dans mes reins pour me forcer à m'éloigner de la route. Un chat gris endormi dans une flaque de soleil s'enfuit. Je suis obligée de trottiner. Des poules s'envolent et se réfugient sur un tonneau crevé, sans doute censé récupérer jadis l'eau de pluie. Nous dépassons un tas de compost suintant et puant. « Là, ça ira !» m'ordonne le bûcheron. Nous nous arrêtons sous la grange au toit défoncé, devant la grande bâche beige qui recouvre un véhicule de la taille d'une tondeuse tracteur. Le tatoué se tient debout, jambes légèrement écartées, façon catcheur impatient que je rentre dans le ring. « Ok, pas besoin d'attendre le gong, premier round !» Je passe mes mains poussiéreuses et ensanglantées sur mes joues, espérant sans doute y dessiner des peintures guerrières, et je crache la première. « Qui êtes-vous ? » Le musclé affiche un petit sourire satisfait. « Qui êtes-vous, vous ? » Je n'ai rien à cacher. « Maddy Libéry, médecin généraliste, installé à Murol. Je soigne Tom. Mon cul, vous fouinez ! Vous le harcelez de questions, vous le tripotez, vous tournez autour de lui comme si vous vouliez l'enlever. Vous voulez savoir ce que je fais là? C'est Amandine qui m'a appelé. Parce qu'elle a la trouille. Parce qu'elle est tombée sur une psychopathe, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Viens vite, Joe, il y a une timbrée qui rôde autour de chez nous, qui se planque pour nous espionner, une malade capable de tout. Il me fixe de ses iris bleus acier, de la couleur dont on fait les épées. Et elle ne s'est pas trompée. Je soutiens son regard, paupières en bouclier. Et vous, vous êtes ?
Joe, le père de Tom. Vous avez pas encore compris ?
Merde, suis-je conne à ce point ? Évidemment, il m'a éjecté de la voiture en hurlant « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à mon gosse ?» Évidemment, Tom a un père. Je tente d'encaisser le choc en avançant et en frappant.
Contente d'apprendre qu'il en a un. On ne peut pas dire qu'on vous voit souvent. Je suis là quand il le faut, et j'ai pas de compte à vous rendre. Si je vous dis que je suis moniteur de snowboard, vous comprendrez que cet hiver, je suis plutôt parti taffer dans les Pyrénées.
Je le détaille à nouveau. Il doit avoir une trentaine d'années. Si son corps musclé est entretenu à la perfection, son visage par contre est déjà marqué par l'activité au grand air, les excès, l'alcool peut-être. Il a l'air sûr de lui, volontaire, indépendant, intelligent d'une certaine façon, et con de toutes les autres.
« Bien !» reprend Joe. « Maintenant qu'on a fait les présentations, on fait quoi ? On prévient les flics ? Je vous ai vu dans la bagnole. Il essayait de se sauver, et vous le reteniez !»
Il sort de la poche arrière de son jean son téléphone.
« Je vous ai même filmé !»
Je tente d'encaisser ce nouvel uppercut. Au moins, les choses sont claires. Je suis tombée sur le genre de mec avec qui il faut jouer carte sur table. Je lève une main en signe d'apaisement. « Je vais vous expliquer. » Il se méfie, mais me laisse parler. Il a forcément besoin de comprendre, lui aussi. Il ne m'interrompt pas une seule fois pendant que je lui résume dans les grandes lignes le récit de ma vie. La disparition d'Esteban, puis la somme des points communs entre lui et Tom. Je passe vite sur les détails physiques, leur ressemblance, la marque de naissance, trop surréaliste pour être expliquée en quelques mots, et j'insiste sur les autres coïncidences. Le maillot indigo à motif de baleine, les vacances à Saint-Jean-de-Luz, la musique, la natation, la peur du miel et des abeilles, les mots basques. Joe s'appuie contre la tondeuse bâchée écrasé par l'accumulation des faits. Dans la ferme, derrière les rideaux, Amandine continue de nous épier. Aucune trace de Tom. Joe attend un peu pour être certain que j'ai terminé mon exposé. L'ai-je convaincu? L'ai-je au moins fait douter? Son regard de scalpel fixe mon front comme s'il voulait ouvrir ma cervelle. « Vous êtes vraiment barré. » Je réagis. M'a-t-il seulement écouté? J'explose.
« Tout ce que je vous ai dit est vrai, et vous le savez. Si vous voulez que je cesse de me comporter de façon irrationnelle, alors fournissez-moi une explication rationnelle !»
Joe soupire, agacé, donnant l'impression de perdre son temps, d'être obligé d'expliquer des évidences à une gamine de 6 ans.
« Une explication rationnelle? Vous débarquez de quelle planète? Vous voulez que je récapitule? Des gosses de 10 ans qui aiment la musique et nager, vous allez en trouver un paquet. Ah oui, aussi, des gamins qui ont en plus la trouille des abeilles. Putain, c'est dingue! Tom a peur des araignées en plus, et des serpents, et des monstres cachés sous son lit quand il était petit. Je parie que votre Esteban aussi. Et que comme Tom, il aimait les Big Mac et les pizzas, qu'il regardait en boucle les Avengers, qu'il rêvait d'avoir une maquette du Faucon Millenium. »
Connard! Esteban n'a jamais mis les pieds dans un McDo. Et il a disparu il y a 10 ans, en ignorant que ses BD des Avengers seraient un jour adaptés sur grand écran. Si ce type espère me convaincre avec son ironie.
Votre fils parle basque sans l'avoir appris. La science appelle cela la xénoglossie.
Ah ouais, rien que ça. La xénomachin. Peut-être même que mon fils va se réveiller demain en parlant mandarin, ou composer des cantates directement inspirées par le fantôme de Mozart. Êtes-vous vraiment débile à ce point? Je suis moniteur de surf. Vous n'avez pas remarqué les posters de Kelly Slater et Jérémy Flores accrochés au mur quand vous êtes allé fouiner dans sa chambre?
J'y suis venu soigner ton fils, du con.
Je passe l'hiver ici quand il neige, et l'été à Guétari, Osgore, Biarritz, en tout cas sur la côte atlantique. Les Maïté Saïtoutama, c'est moi qui lui ai dicté. Le basque, c'est moi qui lui ai appris.
Je fixe Joe sans rien lâcher.
Allez-y, je vous écoute. Parlez-moi basque.
Je vais vraiment appeler les flics.
Vous ne m'avez pas répondu. Dites-moi quelque chose. N'importe quoi, en basque.
Et après, vous allez vérifier si je porte des espadrilles, si j'aime le piment d'Espelette.
Il rit trop fort de son pitoyable trait d'esprit. Je comprends que je ne tirerai rien de plus de lui. J'insiste pourtant.
Et le maillot indigo que portait Tom? Indigo, avec un motif de baleine. C'est vous qui l'avez choisi? Vous avez été harponneur dans l'océan Arctique aussi?
Joe a l'air toujours aussi sûr de lui.
Non, c'est Didine, la maman de Tom, qui l'a acheté. Mais peut-être qu'elle l'a fait en pensant à moi, parce que je ne suis pas assez souvent là. Tout le monde m'appelle Joe, mais mon prénom entier c'est Jonas. Jonas, vous comprenez? Le prophète, avalé par une baleine. Si vous n'êtes pas convaincu, Tom aime Pinocchio aussi. Vous avez vu le pantin de bois dans sa chambre? Il a appelé sa peluche baleine Monstro. Je vous fais un résumé ou vous vous souvenez du dessin animé?
Ce salopard a réponse à tout. Comme s'il avait deviné toutes mes questions, comme s'il avait préparé sa défense. Peut-on à ce point tout anticiper si l'on n'a rien à se reprocher? Je le détaille de la tête aux pieds, cherchant la faille dans sa cuirasse tatouée. Je dois reconnaître que ses arguments m'ont déstabilisé. S'il n'y avait pas cette gémilité, cette marque brune sur l'aine.
« Vous regardez si mon nez s'allonge ?» s'amuse Jonas. Il éclate de rire.
« Non, son nez ne s'allonge pas. Il se contrôle parfaitement. » Trop parfaitement. Il n'a laissé place à aucun doute. Pourtant, n'importe quel père aurait été déstabilisé par ce que j'ai raconté. Il bluffe, ou il cherche à gagner du temps, ou il ne veut tout simplement pas baisser la garde devant moi. Mais quand je serai partie...
Il agite son téléphone portable à hauteur de mes yeux. « Vous savez ce qu'on va faire, docteur? On va en rester là pour l'instant. » « Moi, j'oublie cet incident et vous disparaissez de notre vie. Ça vous convient comme compromis ?»
Il n'attend pas ma réponse et tire sur la bâche beige devant nous. Ce n'est pas un tracteur tondeuse qui y est égaré, mais un quad, flambant neuf. L'engin a soudain l'air de bien davantage passionner Jonas que la santé de son fils. Il l'observe de longues secondes avec envie avant de se retourner vers moi.
« Mais avant qu'on reparte chacun chez nous et qu'on oublie tout ce qu'on s'est dit, je peux vous demander un petit dédommagement, docteur ?»
Étrange. C'est la seconde fois qu'il m'appelle docteur. Il ne l'avait jamais fait auparavant.
J'ai besoin que vous jetiez un regard professionnel sur cette tête de mule de Didine.
Je comprends. S'il est revenu à la souille après une absence de plusieurs mois, Il a dû être choqué par l'état de santé d'Amandine. Et elle a dû lui dire, comme elle me l'a répété, qu'elle refusait qu'un médecin l'examine. Bien entendu, Jonas. Rassurez-vous, je vais soigner votre femme. Jonas le tatoué a cette fois l'air sincèrement préoccupé.
Soigner n'est pas le mot exact, docteur. Je crois que c'est un peu plus compliqué.